France Info. 20h, 21h, France Info, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés, également sur le canal 27 de la TNT. Alors, on va juste commencer par un petit jeu. Quel rapport entre David Bowie, Smaïn, Gérard Philippe et Emmanuel Macron ? Et ben voilà, ils ont tous endossé le rôle du narrateur dans le conte Pierre et le loup de Prokofiev. Et oui, ce soir, le président de la République jouera de ses cordes vocales pour un public restreint, notamment d'enfants défavorisés invités à l'Élysée. Selon le porte-parole du gouvernement, c'est du soft power pour faire rayonner la culture. Alors, on ne sait pas si la prochaine séance d'Emmanuel Macron, ça sera de jouer dans le joueur de flûte, mais en tout cas, ça serait amusant à commenter. Et leur partition, c'est l'actualité. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Jannick Halimi, bonsoir.
Bonsoir.
Du Parisien aujourd'hui en France. Également le cofondateur de l'agence Coriolink, Jacques Isabello, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu.
François Reynard, bonsoir.
Bonsoir.
De l'Obs. Et Valérand de Saint-Just, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes président du groupe Front National au Conseil Régional d'Île-de-France. Et ce soir, on parlera de la méthode Casto, qui est de former des gens quand on est renvoyé. On parlera également d'Emmanuel Macron sous les drapeaux, de réformes au rythme de cavalcade. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Ah là 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 là, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment On ne sait pas. Marine Le Pen n'y arrive pas. La poisse. On n'a pas d'explication convenable. On va opter pour le vaudou parce que là, c'est la poisse totale. Des sondages en berne, des sifflets au salon de l'agriculture, des onibates moyens, maltraités dans les mémoires de son père qui sort aujourd'hui et maintenant... Une mise en examen, et oui, la présidente du Front National a donc été mise en examen pour diffusion d'images violentes. En décembre 2015, elle avait relayé sur Twitter des photos de Daesh montrant des tortures infligées par le groupe terroriste. Un délit passible de 3 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Je suis mise en examen pour avoir dénoncé l'horreur de Daesh. Dans d'autres pays, ça me vaudrait une médaille, a-t-elle déclaré. Alors, quel pays? On ne sait pas. Mais Marine Le Pen en est persuadée. Valérie de Saint-Just, je vais commencer avec vous.
Oui.
C'est étonnant quand même cette posture de martyr, parce que ce genre de pratique est totalement interdite, normalement.
Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Pour placer les choses à l'instant dans son contexte, il y a des journalistes, à l'époque, ce jour-là, qui font le parallèle entre Front National et Daesh.
C'est pas des journalistes, c'est une interview, donc, de Jean-Jacques Bourdin, de Gilles Kepel. C'est Gilles Kepel qui le fait.
D'accord.
Fait.
Marine Le Pen réagit très violemment et fait un tweet en publiant des images d'exaction de Daesh en disant, c'est ça Daesh, c'est ce que c'est le Front National. Bon. Il y a deux choses à dire sur la poursuite dont elle est l'objet. D'abord, donc, moralement, elle répond à une provocation qui était assez insupportable. Ensuite, ces images de Daesh, beaucoup les ont publiées et elles sont quasiment de libre accès. Mais surtout, ai-je envie de dire, puisque moi je suis un peu, même beaucoup, juriste, cette infraction qui lui est reprochée n'existe que si l'image violente ou pornographique est destinée aux mineurs. L'infraction n'existe que pour ça. Parce qu'à contrario...
Est-ce que vous croyez que sur les réseaux sociaux, il y a que des majeurs ?
Non, mais tous ceux qui publient des images pornographiques ou violentes devraient être poursuivis parce que ça pourrait un jour, un instant, une minute, être vu par les mineurs. C'est un délit très particulier, une infraction très particulière. Je prends un exemple. Le rédacteur en chef du journal de Spirou mettrait dans le journal de Spirou ces images de Daesh. Évidemment, c'est destiné aux mineurs. Il pourrait là être poursuivi et condamné.
Mais il ne le fait pas, justement.
Le fait que Marine Le Pen soit poursuivi pour avoir publié ça en réponse sur Twitter est tout à fait scandaleux et inacceptable. Alors, voilà, la poursuite est elle-même moralement et juridiquement inacceptable.
François Reynard.
Quand vous dites que c'est inacceptable, vous voulez dire que vous n'acceptez pas que la justice fasse son travail? Vous reprochez à la justice de faire son travail?
Mais la justice...
Elle est mise en examen, la plainte a été a suivi, reçue, etc.
Monsieur Reynard, le fait que le procureur de la République, qui ne fait jamais rien, excusez-moi, contre les images pornographiques ou violentes qui sont exposées aux vues... On a produit au juge une photo du kiosque qui est sur le boulevard du Palais à Paris, où on voit en même temps des photos de magazines sadomaso et à côté des photos de magazines faits pour les enfants comme Pif le chien ou choses comme ça. Bon, mais ça l'émeut jamais le procureur de la République. Qu'il fasse ça, alors qu'il ne l'a pas fait depuis 30 ans, uniquement contre Marine Le Pen, c'est ça que nous trouverons tout à fait extravagant.
Jeannick Halimi.
Écoutez, moi je crois que la justice fait son travail et que ça ne gêne pas du tout en l'occurrence ce qui se passe au niveau judiciaire sur ce dossier-là, Marine Le Pen, parce qu'elle est complètement en cohérence avec sa ligne, avec son discours politique et avec ce qu'elle pense foncièrement sur Daesh. Et à force d'en parler, je pense qu'au minimum, au mieux pour elle, ça ne peut que la servir. En tout cas, ça ne va pas la desservir.
C'est possible, ça.
Je pense pas que ça vaille le coup d'en faire des tonnes.
Et pourtant, Jacques Isabello, Marine Le Pen, alors c'est pas n'importe qui. Donc quand elle publie quelque chose sur Twitter, forcément, elle sait qu'on va le regarder. Surtout à cette époque-là, c'était après les attentats contre le Bataclan.
Et Marine Le Pen, elle sait que les gens vont toujours avoir une espèce de relation assez manichéenne par rapport à elle. On est pour, on est contre, elle est très clivante. Et c'est vrai que par rapport à ça, je suis d'accord avec vous, la justice doit faire son travail. Mais c'est assez étonnant de donner une résonance judiciaire à quelque chose qui est assez maigre, me direz-vous. Et à l'issue de ça, elle va sans doute être relaxée. On voit pas comment la justice pourrait la condamner lourdement pour une réaction dont elle arrivera à prouver que ça s'est fait sous le sceau de l'énervement. Donc, c'est donner l'occasion à Marine Le Pen de se positionner un peu en victime. Regardez, tous les jours, on a des gens qui se font incendier, insulter sur Twitter avec des propos sexistes, antisémites, racistes. Elle est une leader politique et elle doit faire attention à ce qu'elle fait. Mais par rapport aux citoyens moyens, elle va arriver, et je parle d'un point de vue de la communication, Jean-Mathieu, elle va arriver à se positionner en victime in fine, c'est ce qui va se passer.
Non, je voulais juste te dire qu'il y a quelque chose qui est très étonnant dans les phénomènes politiques, c'est là, on se force à commenter ce truc de Marine Le Pen, dont au fond, on se fout un peu, franchement. C'est-à-dire que, non mais il y a quelque chose qui est, là, en l'occurrence, elle, la date pour elle, le moment maudit, c'est le débat, mais depuis le débat, elle est totalement démonétisée, c'est-à-dire qu'on lui rend service, là,
voilà. Bien sûr,
qu'on parle du débat parce que c'est une date qui a sonné la fin de Marine Le Pen.
Je crois vos désirs pour des réalités, monsieur.
Vous verrez. En tout cas, c'est vrai que Valérie de Saint-Just, on peut voir. Juste une dernière question là-dessus sur ce tweet. Vu qu'il y a quand même une loi, une règle, si vous ne fixez pas, si vous ne respectez pas cette règle, comment vous voulez que les autres la respectent?
Mais quelle règle?
Eh bien, je vous le dis, c'est un délit, monsieur Saint-Just.
Sinon, Paris Match est condamné toutes les semaines.
Mais Paris Match ne publie pas des photos comme vous de Daniel Pearl, décapité, non.
Paris Match publie 10 fois pire, 10 fois plus violent.
C'est-à-dire, par exemple?
Il y a un certain nombre de photos.
Floutées.
Elles respectent les individus, elles sont floutées.
Elles sont floutées.
Elles ne sont pas floutées.
Mais bien sûr que si, Paris Match.
Je dis Paris Match, mais il y a de tas de publications qui publient des images violentes et ou pornographiques tous les jours et tout le temps, qui devraient être poursuivies.
Écoutez, je vais juste vous laisser le temps d'y réfléchir à ces publications, quelles sont-elles, parce qu'on pourrait avoir les noms. Dans un instant, l'info à 20h10, c'est Noémie Bonin.
La situation revient à la normale petit à petit dans le sud de la France après les nombreuses perturbations liées à la neige, que ce soit sur les routes ou au niveau des réseaux électriques. En fin de journée tout à l'heure, plus de 4000 foyers étaient encore privés d'électricité dans le Gard, l'Hérault et les Alpes-Maritimes. 18 départements sont en vigilance orange, neige, verglas ce soir, mais désormais dans le nord-est de la France, du Doubs jusqu'au Pas-de-Calais. Attention également aux grosses vagues sur le littoral atlantique, mais aussi le long de la Méditerranée. La direction de Castorama parle de maladresse après une polémique au sein de l'entreprise. En cause, cette demande du groupe de bricolage aux salariés français de former leur homologue polonais, censé les remplacer dans le cadre d'une délocalisation. L'annonce a fait un tollé. La direction fait donc machine arrière. Plus d'espoir de solution dans l'affaire Seznec qui remonte à près d'un siècle. Les fragments d'os retrouvés dans l'ancienne maison de la famille à Morlaix sont en fait des restes de bovins, deux animaux différents selon le procureur de la République de Brest. L'enquête va donc être clôturée, nous dit le parquet. L'inquiétude en Allemagne face à une cyberattaque d'ampleur, elle dure depuis plusieurs mois et touche plusieurs ministères. Elle sera toujours en cours selon des députés chargés des questions de sécurité, contrairement à ce qu'affirme le gouvernement qui parle d'un incident sous contrôle.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, nous parlons de Marine Le Pen. Aujourd'hui, elle a été mise en examen donc pour avoir relayé des images sur Twitter en 2015. Mais il n'y a pas que ça concernant Marine Le Pen, puisque cette affaire arrive deux semaines avant, ça sera le 10 et 11 mars prochain, un congrès du Front National qui s'annonce, je cite, par le parti le Front National, comme refondateur. Yannick Halimi, est-ce que ce parti est véritablement refondateur à partir du moment où c'est Marine Le Pen qui apparemment repartirait pour être présidente?
Ce congrès, vous voulez dire
congrès, pardon, pour être... Excusez-moi, pardon.
Non, je vous en prie. Oui, effectivement, c'est compliqué de refonder avec une personne qui est à la tête du parti depuis 7 ans, je crois. Depuis
2011.
Voilà,
2011,
ça va faire 7 ans depuis 2011. Et surtout, une personnalité qui, comme on le disait tout à l'heure, est extrêmement chahutée, fragilisée, voire décrédibilisée, au moins auprès d'une partie de son électorat, si ce n'est de ses sympathisants. Donc c'est très compliqué. Si j'ai bien compris, Marine Le Pen va choisir le minimum minimorum, puisqu'il s'agit de réorganiser les instances et de proposer un changement de nom et de proposer des noms pour un vote qui aura lieu un peu plus tard. Donc vous voyez, pour le moment, j'ai l'impression qu'elle cherche un peu à ripolliner la façade, mais elle ne fera pas de toute façon l'économie après ce congrès qui, je pense, l'élira, présidente du Front National, d'une véritable, oui, il n'y a qu'elle, d'une véritable revisitation, si je puis dire, de fond en comble, notamment de la doctrine du parti.
Une chose, Jacques Isabello, changer de nom en tant que communicant, est-ce que ça change tout?
Jaurès disait, quand on peut pas changer les idées, il faut changer le nom. Je sais pas si ça va les aider, parce que il faudrait, je vais pas faire du Cap Ferrer en analyse de marque, mais c'est vrai que la personnalité de la famille Le Pen et les valeurs qui sont intrinsèquement associées à ses fondateurs sont tellement puissantes que changer de nom, ça changera pas grand chose. Mais je voudrais juste dire, en 88, quand Chirac se prend sa deuxième peignée, après l'élection présidentielle, il est revenu, on s'est dit, il pourra jamais y arriver. Il est revenu fier comme un bar tabac, comme auraient pu dire nos amis vendeurs de cigarettes. Et je le trouvais rayonnant. Là, Marine Le Pen, elle n'y arrive pas. C'est-à-dire qu'à travers nos écrans de télévision, on voit qu'elle est totalement épuisée, qu'elle n'y arrive plus. Elle n'arrive plus à formuler une idée. Elle n'arrive plus à emmener qui que ce soit. Mais vous avez raison. Qui mettre derrière et comment refonder quelque chose? Et juste pour conclure, Marion Maréchal Le Pen, qui envoie ses petites cartes postales et qui a une communication par l'absence qui est assez intéressante et qui ne va pas l'aider dans les prochains mois, voire les prochaines années.
Valérie de Saint-Just, il y a une question qui s'est posée à un moment par rapport au Front National. Est-ce que c'est possible aujourd'hui un Front National sans Le Pen? Pour vous, enfin, qui êtes justement
je vous écoute, mais je conteste tout à fait. Je l'ai regardé, par exemple, tout à l'heure, une émission du Talk du Figaro. Oui. Je l'ai trouvé sur le plan de la communication et de la décontraction et de la pertinence politique absolument parfaite. Moi, je pense que vous faites quand même une analyse un peu tronquée. Il s'est passé quelque chose pendant la présidentielle d'important, de très important, c'est son rapprochement avec Dupont-Aignan. Nicolas Dupont-Aignan.
Plus rassembleur,
moi qui ai de la bouteille, c'est la première fois que ça arrive au Front National. Et non seulement ça arrivait avec Dupont-Aignan, mais ça arrivait avec quelqu'un qui se revendique du gaullisme. Alors qu'au Front National, on ne se parlait plus, même pire, avec les gaullistes depuis 1962. Et la refondation, en réalité, dans la perspective des européennes et des autres élections, c'est la volonté de Marine Le Pen d'aller vers un rassemblement. Est-ce qu'on y arrivera? Je ne sais pas, c'est difficile, mais en tout cas, elle a montré pendant les présidentielles que c'était sa volonté. Elle a réussi un rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan, et elle compte bien, et c'est ça sa volonté. Et ça, je veux dire, sur le plan politique, côté Front National, c'est tout nouveau et ça me paraît extrêmement puissant.
François Reynard.
Oui, moi, je pensais à quelque chose qui est paradoxal, c'est que il y a quelque chose qui me désole en tant que citoyen, c'est que objectivement, les idées qui étaient portées par Marine Le Pen, elles sont très répandues dans une grande partie de la société française. Les idées identitaires, nationalistes, toutes celles que je combats parce que je pense qu'elles conduiront mon pays à sa perte. Mais enfin, en tout cas, de fait, elles sont répandues. Simplement, elles sont défendues par beaucoup trop de monde aujourd'hui, sur le plan politique. Donc, ce qui me désole en tant que citoyen, ça m'amuse comme analyste politique, disons, enfin, comme observateur politique, hein, parce que là, Wauquiez dit la même chose, les patriotes de Philippot disent la même chose, Mme Le Pen, donc ça fait beaucoup de chiens et sur une même gamelle, et j'ai l'impression que ces chiens sont en train de se manger entre eux.
Non, monsieur, là, vous caricaturez un peu à la fin, parce que nous, pour nous, quand même, qui faisons un peu de politique à travers un mouvement politique, ça devrait se concrétiser au moment de la liste des européennes, c'est le moment.
C'est-à-dire, et puis après, vous le dites ce soir, parce que Marine Le Pen ne veut pas le dire, vous le dites ce soir qu'il y a une alliance avec Nicolas Dupont-Aignan
sur les
européennes.
Non, je n'ai pas dit ça.
Je parlais de Wauquiez aussi. Vous voulez faire une alliance avec le Républicain aussi?
Mais avec tous ceux...
Qui veulent faire alliance avec vous.
Tous ceux, monsieur, qui tiennent, contrairement à ce que vous pensez, mais vous avez le droit de penser ce que vous voulez, et nous ne sommes pas d'accord, et nous avons tous les deux la possibilité de ne pas être d'accord du tout, tous ceux qui tiennent à l'heure actuelle, à la prééminence et au retour du concept et de la réalité de la nation. Voilà, c'est ça que nous voulons rassembler, c'est notre volonté, j'espère que nous y arriverons, et tous ceux qui sont d'accord avec nous sur ce point, principe, sur cette pierre d'angle, peuvent venir, notamment aux européennes. Voilà, c'est ça notre message. Le reste, ça n'a pas grande importance.
Tout de même, Jeannick
Alimi. Oui, non, moi je dirais plusieurs choses. D'abord, la valeur de nation, c'est vrai qu'elle est devenue peut-être plus clivante que le concept droite-gauche. Il n'empêche qu'il a perdu ce concept-là il y a encore à peine 9 mois face à un Emmanuel Macron qui a gagné, non pas en essayant de marcher sur vos terres comme aurait pu le faire un Nicolas Sarkozy, par exemple, mais au contraire en défendant une ligne radicalement opposée qui est européenne et foncièrement européenne. Donc pour le moment, la diffusion des idées Front National n'est certainement pas sur cette ligne-là. Et l'unité que vous appelez de vos voeux et dont vous dites qu'elle est symbolisée par le rapprochement avec Nicolas Dupont-Aignan, il se fait au prix d'un éclatement de votre appareil idéologique. C'est-à-dire que Marine Le Pen s'est complètement déstructurée sur la sortie ou pas de l'Union européenne et de la zone euro, qu'elle est concurrencée sur l'identité non seulement par Marion Maréchal Le Pen, mais également par Laurent Wauquiez, qui ne veut pas du tout franchir le pont de l'autre côté duquel vous vous trouvez.
Il y a beaucoup de pour le moment, voilà. Quand même.
Oui, mais enfin...
La politique, c'est l'artichaut mangé feuille à feuille.
L'unité que vous appelez de votre vœu, elle est plutôt synonyme d'éclatement et politique et idéologique. C'est tout le contraire.
Une question, Valéron de Saint-Just. Vous êtes un vieux compagnon de route de Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, sortent ses mémoires. J'imagine que vous les avez lus déjà. Qu'est-ce qui, par rapport à sa fille, dedans, elle me fait pitié. On se dit, c'est étonnant quand même le rapport toujours qu'il y a entre le père et la fille.
Je ne veux pas commenter ça.
Pourquoi?
Parce que ce sont des sentiments personnels à Jean-Marie Le Pen, un peu exacerbés à l'égard de sa fille.
Un petit peu.
Voilà, moi je suis plutôt je n'ai pas tout à fait envie de commenter ce genre de propos.
Et pourtant, c'est une réalité parce que ça anime le Front National depuis que Marine Le Pen a pris la tête du parti. Vous savez bien.
Politiquement, et Marine Le Pen l'a expliqué tout à l'heure, il y a une rupture politique totale avec Jean-Marie Le Pen. Politiquement, nous l'avons déchu de sa présidence d'honneur et de sa qualité de membre du Front National, mais pour des raisons exclusivement politiques et pour écarter du Front National toute possibilité d'accusation qui ne peuvent pas être acceptés à l'heure actuelle.
Et des gens comme vous qui étaient proches de Jean-Marie Le Pen et de ses idées, toujours une des chevilles ouvrières du Front National de Marine.
Mais vous dites que j'étais proche des idées de Jean-Marie Le Pen, des vraies idées qu'il a, que je connais. J'ai toujours dit, ça a beaucoup choqué d'ailleurs à l'époque, quand notamment il y a eu la commission de discipline. J'ai dit, pour moi, Jean-Marie Le Pen, je le connais, c'est un des êtres les moins racistes et moins antisémites qu'on connaît. Bon, mais parce que je le connais très bien et j'en suis persuadé.
Il y a un petit problème de communication,
ça n'empêche pas de dire des choses qui ne sont pas acceptables en 2018.
Ouais. Allez, l'info à 20h21. Désolé, un peu de retard. Noémie Bonin.
En Espagne, Carles Puigdemont annonce ce soir qu'il renonce à briguer à nouveau la présidence de la région de Catalogne. Il laisse sa place au numéro 2 du parti indépendantiste, actuellement emprisonné pour sédition. L'affaire du violeur de la Sambre et ses multiples répercussions. On apprend ce soir que les enquêteurs vont réexaminer 70 affaires de viol et d'agressions sexuelles commises ces 30 dernières années dans le département du Nord. L'objectif, c'est de voir si elles ont un lien avec Dino Scala, cet homme mis en examen hier. Il a avoué lui-même une quarantaine d'agressions. Dialogue de sourds entre le gouvernement français et les syndicats de la SNCF. La première journée de concertation aujourd'hui sur la fameuse réforme n'a rien donné. Les syndicats dénoncent la fermeté du ministère des Transports. Ils restent donc sur leur projet de plusieurs journées d'action. La neige et le verglas perturbent encore la circulation en France, dans les Hauts-de-France et le Grand Est. La SANEF, la Société des autoroutes, déconseille aux automobilistes de prendre la route jusqu'à demain après-midi. 18 départements sont toujours en vigilance orange, la neige et au verglas dans cette partie nord-est du pays. Et puis c'est le dernier quart de finale de Coupe de France de foot. Ce soir, Caen accueille Lyon tout à l'heure à 21h. Le vainqueur de ce match jouera contre le PSG, ça vient d'attirer au sort l'autre demi-finale. National verra s'affronter donc les deux petits de National, les Herbiers face à Chambly.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors, il paraît qu'en rentrant dans le bureau du président de la République, les conseillers trouvent souvent Emmanuel Macron fixant le vide. Mais qu'est-ce qui vous arrive, président? Ah, c'est terrible, je ne sais plus quoi faire comme réforme. Hein. La preuve, j'ai même réformé Pierre et le Loup, c'est dire. C'est vrai que le rythme est soutenu. Hein. En 10 mois, le gouvernement a engagé une vingtaine de réformes de fond. La dernière en date, donc on en parlait encore, la date, c'est sur la SNCF. Une stratégie de la multiplication qui fait tourner la tête de l'opposition, puisque Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée, dénonce cette chevauchée digne du Poney Express. Même chose pour les mesures, ça n'arrête pas aujourd'hui. Le prix d'un paquet de cigarettes a grimpé d'un euro, le fixant à 8 euros pour atteindre peut-être 10 euros d'ici 2020. Un enjeu de santé publique qui pourrait aller même plus loin, selon l'addictologue au CHU de Strasbourg, Élise Gogler.
Ce qui est important, c'est la somme totale hein, d'ici 2020 à 10 euros le paquet. C'est vrai que 10 euros, un chiffre, enfin un prix avec deux chiffres, justement, ça marque les esprits, on en parle beaucoup. Donc moi, je pense qu'il faut évidemment jouer sur le prix, mais pas que sur le prix. Il faut aussi insister sur tout le reste, faire des campagnes de prévention.
Voilà, Élise Gogler, donc du CHU de Strasbourg. Jacques Isabello, c'est utile cette hausse finalement? On se pose toujours cette question.
Alors, toutes les études montrent que si vous adoptez la stratégie de la grenouille dans l'eau tiède, ça ne fait rien.
Qu'est-ce que ça veut dire,
si
la
vous
grenouille
augmentez légèrement le prix, comme on augmente légèrement la température dans la grenouille et la grenouille se laisse cuire, vous savez.
Ah oui.
Les études disent que si vous augmentez violemment le prix, là, les gens, on observe des baisses de consommation. Ça s'est vérifié dans tout un tas de pays à l'international et en Angleterre notamment. Donc, le faire comme ça, effectivement, c'est assez utile. C'est ce que disent les chiffres des études économiques.
Yannick Halimi, aujourd'hui, alors on parle aussi, le problème c'est que ça rapporte à l'État, mais c'est vrai que alors, ça rapporte 14 milliards et en même temps ça coûte aussi hein, 26 milliards, hein, les problèmes de santé liés au tabagisme, hein, on le
voit.
Oui,
alors la hausse rapporterait dans un premier temps 500 millions d'euros.
Hein, voilà, je crois, exactement. Le problème, c'est ce que disent certains, c'est qu'à côté de ça, il y a un développement d'un marché clandestin.
Bah alors voilà, alors d'abord, pour que ça produise ses effets, cette hausse brutale de la grenouille chauffée à blanc, si je puis dire, il faut, ce que disent les médecins, il faut que ce soit accompagné par des mesures d'accompagnement quoi, pour expliquer aux gens ce qu'il faut faire, enfin de plus profond quoi, plus structurel pour les prévenir le fait de fumer. Et effectivement, vous avez raison, il y a aussi alors il y a deux phénomènes qui accompagnent la hausse des prix ou la hausse de la fiscalité. C'est soit le boom de la contrebande, soit le boom non pas de la contrebande mais des passages de à travers de l'autre côté des frontières.
D'accord.
Par exemple en Belgique, en Espagne ou en Suisse, je crois, enfin Suisse, je suis pas sûre, où les prix sont plus bas. Donc là, il faudrait réglementer ou avoir des fiscalités européennes
voilà, c'est
plus harmonisées. Mais de fait, effectivement, il risque d'avoir un développement de la contrebande avec des produits, je crois savoir, beaucoup plus nocifs et beaucoup plus empoisonnés même que des cigarettes normales, j'allais dire.
Valérie de Saint-Just, vous pensez finalement aujourd'hui ce combat voilà, de santé publique, c'est important d'aller même jusqu'à 10 euros pour essayer de désensibiliser.
Mon opinion, c'est que les gouvernements successifs, depuis pas mal de temps maintenant, ont toujours eu, avec cette question-là, le derrière entre deux chaises. La ministre a dit « cette hausse devrait provoquer une prise de conscience ». Et l'État joue un peu quand même le rôle de proxénète, parce qu'il gagne beaucoup d'argent avec le tabac. Il dit en même temps que ça provoque des dégâts sanitaires très importants. Je le crois d'ailleurs.
Oui.
Je pense que ça provoque des dégâts sanitaires plus importants que ce qu'on appelle les véritables drogues, l'héroïne, la cocaïne, etc., etc. Mais je sais aussi que dans les milieux populaires, notamment dans le Pas-de-Calais, dans le Nord, en Picardie, etc., c'est quand même un plaisir. Enfin, dans les milieux populaires, on fume énormément. C'est un plaisir de tout.
Vous citez le même exemple qu'Emmanuel Macron, alors, c'est marrant.
Comment?
En Picardie, Nord, vous citez le même exemple qu'Emmanuel Macron.
Ouais, j'étais dans le même collège que lui à Amiens.
Ah bah c'est pour ça, alors finalement, alors voilà, c'est pour ça.
On parle Picard tous les deux, d'ailleurs.
C'est formidable, écoutez.
Mais voilà, alors qu'est-ce qu'on fait avec le tabac? Eh ben, éventuellement, on l'interdit totalement, si vraiment...
C'est nocif à ce moment-là. Alors, il y a une chose aussi quand même, il y a juste une petite chose pour terminer, François Reynard, c'est, on se souvient, le président de la République avait dit au sein de l'agriculture, il faut arrêter d'embêter les Français avec le vin. Est-ce qu'on peut à la fois être tapé finalement sur le tabac et fiche la paix avec le vin? Est-ce que finalement, il n'y a pas un problème d'hygiène?
Bah, sur le vin, il y a l'idée de la consommation modérée, quoi.
Ouais.
C'est toujours le gros problème. Est-ce qu'il faut être dans la prohibition totale ou la consommation modérée? Moi, ce qui me frappe sur le tabac ou plus généralement, finalement, c'est sur le comportement des gens en général. Quand à chaque fois qu'il y a une affaire sanitaire, genre le poulet, machin truc, les lasagnes au cheval, etc., à chaque fois, il y a tous les pouvoirs publics disent non, mais allez-y, il n'y a aucun risque, vous pouvez manger du poulet, c'est bon, il n'y a aucun danger, etc. Et on voit consommation de poulet, vous savez, il y a les linéaires de poulet qui sont vides, plus personne n'achète du poulet, etc. Et là, sur le tabac, depuis 50 ans, on répète à raison, le tabac c'est mauvais, etc. Et la consommation ne fléchit pas tant que ça. Donc il faudrait peut-être faire l'inverse, il faudrait peut-être faire des campagnes dans un fumer, il n'y a aucun risque, allez-y, etc. Puis là, on
verra. Elle fléchit depuis 15 ans.
Je plaisante un peu, mais elle fléchit, heureusement. Mais là, 73 000 morts par an, c'est pas normal qu'on s'en occupe. Après, comment s'en occuper?
Exactement. Allez, dans un instant, on va parler justement de ces réformes. On parlera également d'Emmanuel Macron sous les drapeaux et de ce service national qui se précise. Voilà la suite du programme des informés de France Info.